Vous écoutez
RMC. RMC, la punchline GG.
En 1996, j'ai eu peur. J'étais terrifié. Trois des cinq meilleurs skieurs du circuit venaient d'être envoyés à l'hôpital. Je me suis dit, comment veux-tu t'en sortir si les meilleurs échouent? Il s'en est fallu de peu que j'entre dans le club de ceux qui redescendent en télécabine. Quand je suis arrivé en bas pour la première fois, j'ai levé les bras comme si j'avais gagné la course.
Didier Cuche sur la peur de cette descente de Kitzbühel. La question, mais GG la peur.
Il avait perdu la flamme, Cuche.
Non. Elle est pas mal, celle-là.
Je garde, évidemment. La peur, est-ce un frein ou un moteur? Mais GG. Christophe Cessieux.
Frein.
David Douillet.
Un moteur.
Stéphane Brun.
Un moteur.
Denis Charvet.
Un moteur.
Trois moteurs, un frein. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste ski, Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Combien de temps vous allez encore nous vendre la peur avec Kitzbühel? Salut Jean-Christophe.
Salut Christophe, salut Denis, salut Stéphane.
On vend la peur. Bah justement, pourquoi cette descente de Kitzbühel fait-elle aussi peur?
Alors, il y a un proverbe popularisé par le descendeur français Johan Claret qui dit que Kitzbühel, c'est 30 secondes de chute libre au départ et 30 secondes de chute libre à l'arrivée. Reste une minute au milieu, pas forcément non plus de tout repos. La Strive, traduisait le ruban en allemand, est l'une des pistes les plus vertigineuses du circuit. Pas la plus rapide, mais certainement la plus exigeante techniquement, avec la Stelvio de Bormio, avec qui elle se dispute d'ailleurs régulièrement le titre de descente la plus dangereuse de la Coupe du Monde. Les chutes font partie de l'histoire de la Strive, les skieurs le savent, mais n'y sont jamais vraiment préparés. Si tu es au départ, la Strive t'aboie dessus comme un méchant chien, et si tu n'aboies pas en retour, elle te mord, avait d'ailleurs déclaré l'Autrichien Andreas Schifferer quelques mois après avoir violemment percuté la neige et passé trois jours dans le coma suite à l'édition 1996. Autre miraculé, le Suisse Daniel Albrecht, victime d'une effroyable chute à l'entraînement sur le saut final en 2009. Traumatisme crânien, traumatisme cérébral, hémorragie cérébrale, contusion pulmonaire. Il passe alors près d'un mois dans le coma, se réveille, puis revient à la compétition 9 mois plus tard. Mais l'histoire se termine parfois moins bien. Et si aucun skieur n'a directement laissé la peau sur la Strive, certains y ont définitivement enterré leur carrière, comme Hans Gruber, par exemple, dont la chute en 2011 avait horrifié le petit monde du ski, percutant de plein fouet la piste avec sa tête après un saut d'une trentaine de mètres sur le début du parcours, inconscient, presque laissé pour mort. Il sera opéré pendant plus de 5 heures pour des blessures à la tête, aux côtes et aux poumons. Il ne remontera jamais sur des skis en compétition. Voilà pourquoi Kitzbühel fait peur. Voilà pourquoi arriver en bas de la Strive au bout de quasiment 2 minutes d'effort est toujours un moment d'intense soulagement.
Merci beaucoup Arnaud Souk. Tu restes avec nous évidemment pour ce débat sur la peur, frein ou moteur. Oui, Christophe.
Alors d'ajouter juste cette petite phrase légendaire qui veut que lorsqu'un jeune skieur arrive à Kitzbühel, ses coéquipiers lui dit, c'est pas la peine de défaire ta valise, on te l'amènera directement à l'hôpital. Donc comme ça, ça vous met dans l'ambiance directement.
On plante le décor, exactement. Frein ou moteur? C'est un moteur pour toi, Denis Charvet?
Écoute, c'est un moteur, c'est une réflexion que j'ai eu souvent par rapport à la peur, parce que moi j'ai fait un sport de combat, comme tu le sais, un sport dangereux, même très dangereux, et finalement je pense que déjà par ton éducation, quand tu démarres très jeune comme ça, la peur tu la canalises, enfin, elle fait partie de toi en fait, parce que sinon tu rentrerais pas sur un terrain de rugby. C'est ma réflexion que je me suis faite. Après tu dois l'apprivoiser quelque part, parce que on va pas se mentir, la peur, on a tous peur. Il y a différentes peurs, la peur de gagner, la peur de se faire mal, la peur de se tuer, la peur de, donc il y a plusieurs peurs en nous, mais c'est vrai que pour moi, je me suis posé la question après ma carrière, et même maintenant, quand je vois les joueurs jouer, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi comment j'ai pu faire ce sport-là? Donc si tu veux, j'ai traversé une carrière avec une peur qui était intégrée, quoi. Je le pense. Donc, si tu veux, mais pour l'intégrer et l'apprivoiser, il faut vivre avec. Donc, je pense quand même qu'il y a quand même inconsciemment un fait qui fait que, mais tu y réfléchis et que tu l'as mis dans un coin de toi et puis tu y vas. Parce que sinon, je n'aurais jamais rentré sur un terrain. Donc après, la seule peur que j'ai eue véritablement consciemment, on va dire, c'est la peur de mal faire. Celle-là, ça m'a parfois inhibé, ça m'a empêché d'être meilleur. Mais le reste.
Mais sur la dangerosité de ton sport, tu mettais ça de côté.
Et pourtant, crois-moi que c'était quand même dangereux. J'ai vu des choses très dangereuses sur un terrain.
Exactement. Surtout à l'époque, on le rappelle, où même si c'est encore dangereux aujourd'hui de pratiquer le rugby.
Ah, est-ce que c'est pas plus dangereux d'ailleurs aujourd'hui que ça l'était à l'époque?
Moi, je pense qu'il y avait.
Bon, de temps en temps,
je pense que c'était très, très dangereux.
Mais il y avait peut-être moins de grosses blessures.
Mais alors, je vais vous dire, par rapport au chaos, par exemple, au traumatisme. il y en avait plus avant qu'aujourd'hui. Donc je veux dire par là, le problème c'est que celui qui fait un KO à l'entraînement, il joue le dimanche. Celui qui fait un KO le dimanche, il s'entraîne le lundi. Non mais nous, il n'y avait pas la prévention, il n'y avait pas cette sécurité, il n'y avait pas tout ça n'était pas pris en compte. Je peux te dire des joueurs avec qui j'ai joué qui ont fait beaucoup de KO, il y en a. Hein.
Ok, c'est un frein pour toi, Christophe.
Alors je pense que c'est un frein selon certaines conditions, parce qu'évidemment ça peut être un moteur et vous qui avez tous été des athlètes de haut niveau, vous dites que ça a été un moteur pour vous. Mais dans d'autres cas, ça a été aussi un frein, c'est un frein lorsqu'il y a eu la douleur avec. Et on parlait de plusieurs skieurs. Moi, je vous parlais du cas de Valentin Giromoine, qui est un coureur de l'équipe de France de descente, qui était l'un des tout meilleurs et qui, un jour, après avoir fait justement un podium à Kitzbühel, la semaine d'après, se blesse gravement à Garmisch. C'était en 2017. Luxation des deux genoux, ce qui avait entraîné une greffe de tendon qui avait été prélevée sur un donneur. Il a galéré pendant des mois pour revenir. Il est revenu au niveau, mais il a connu la douleur, la très grosse douleur. Et lorsqu'il s'est retrouvé 2 ans plus tard au départ de la Strafe, il était dans la cabane de départ, il a dit non.
Il n'est pas parti ?
Il est reparti en télécabine, il est redescendu. Incroyable. Parce que la douleur était... Le souvenir de sa douleur était dans sa tête.
Mais là, tu parles d'un extrême.
Et je te parle d'un extrême. Je vais te donner un autre exemple. Dimitri Zarzewski, joueur de rugby, talonneur de profession, qui lui aussi a été victime de problèmes au cervical, qui s'est fait opérer des cervicales et qui un jour, après cette opération, se retrouve sur un terrain, rentre en mêlée et sent à nouveau la douleur. Et il s'est dit, mais non, c'est mon dernier match, j'arrête là, c'est pas possible, je ne veux pas risquer de me retrouver en petite chaise. Donc tu vois, la peur d'avoir mal, la peur de la grosse blessure, quand tu l'as déjà connue, je pense que là, c'est un frein. Alors évidemment, tout le monde n'a pas connu la douleur, mais je pense que vous l'avez tous connu à un degré mais là, plus ou moins élevé.
C'est la grosse blessure.
Et voilà, mais moi je te dis que dans ces cas-là, quand il y a eu la douleur, le souvenir de la douleur, pour moi c'est un frein.
Après,
derrière.
Regarde Hermann Maier, par exemple, à l'époque, pour reprendre des skieurs, qui avait été blessé très gravement à plusieurs reprises, d'ailleurs, pas que il n'y avait pas eu que son accident de moto, il était revenu à chaque fois et il avait gagné. Il avait
oui, mais quand il chute à Nagano, par exemple, cette chute qui est sans doute la plus spectaculaire de l'histoire du ski, effectivement, tout le monde s'est dit, comment il va faire? Il se relève, mais il s'est pas fait mal ce jour-là. Mais il s'est fait mal dans d'autres courses. Mais voilà, je pense que quand t'as connu une grosse douleur et que t'as vraiment la trouille de devoir finir en petite chaise roulante derrière, tu calmes le jeu.
Je pense qu'il faut faire le distinguo sur les sports dangereux type F1, descente de ski, cyclisme ou les sports extrêmes, où là je pense que la peur c'est un frein au bon résultat, parce que si t'as peur tu vas freiner, tu vas pas prendre le risque nécessaire. Et là je te parle de la relation entre performance gagnée et la peur. Si t'as peur, tu seras pas premier, parce que forcément tu vas être un petit peu sur le reculoir et tu vas pas faire péter le chrono adéquat. Après, sur d'autres sports comme le mien qui était le basket, la peur elle est pas dangereuse pour soi, elle est pas dangereuse pour son intégrité physique. Et là on bascule de la peur au stress, le stress de pas réussir, le stress de se louper, et pour moi ça a toujours été un moteur, parce que ce stress d'avant match et pour d'autres aussi, c'est surtout un bon signe, car elle te met en alerte. En fait, ce stress là te met en alerte sur les bonnes choses à faire, sur les consignes à respecter, sur les système à exécuter, et moi si j'avais pas peur, je savais que j'allais faire un mauvais match.
T'as pas empêché parfois de passer à côté aussi?
Non, parce que c'était du stress qui excitant, et je sais qu'après c'est du cas par cas. Il y a des gens qui, ce stress et cette peur annihilent toute leur performance. Il y a des mecs qui sont performants que sous la pression de la compétition, et il y en a d'autres qui, un état d'anxiété, et ben va faire perdre tous ses moyens. Donc après je pense qu'on est sur du cas par cas. Il faut faire le distinguo entre les sports dangereux et les sports, enfin les sports co, où il n'y a pas de danger pour soi, pour son intégrité physique.
Notre double champion olympique, David Douillet, sur la peur.
Moi, je ferai un distinguo entre... Je pense qu'il y a la peur plaisir et la peur qui peut devenir un enfer. Et je crois que tout le monde l'a un peu décrit d'une manière ou d'une autre. Et tant qu'on arrive à transformer cette peur même de l'intégrité physique, cette peur de la compétition, cette peur de l'événement, cette peur de l'adversaire aussi... en plaisir, parce que on se dit qu'est-ce que je vais rassembler comme qualité pour outrepasser cette peur, et quand j'y arrive, et ben c'est déjà une victoire, peut-être dans la victoire, et ça vous tient et ça reste intéressant. Le jour où il y a un grain de sable, et quelquefois c'est un gros accident, etc., et que cette peur là se transforme en une crainte, un enfer, là c'est plus possible. Voilà. Et ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai souvenir, et je vais sortir un petit peu du cadre du sport pour aller dans l'extrême. J'ai quelques amis qui ont officié ou qui officient encore dans des groupes d'élite d'intervention. Certains, en ayant pris une balle, n'ont plus été capables d'aller en intervention, et d'autres le sont toujours encore capables. Donc ça, c'est vraiment le profil psychologique de l'individu qui est capable d'outrepasser son soi-même pour aller dans ce qu'il aime faire quelque part, hein, dans sa passion. Voilà, c'est propre à chacun. Maintenant, je pense que en majorité, la grande majorité des athlètes, ce sont des individus qui ont intégré cette peur, qui l'outrepassent et qui en font déjà une première victoire. Et ça a du bon.
Les copains, on va poursuivre ce débat dans quelques instants, mais priorité au direct, l'Open d'Australie avec Caroline Garcia. Vous le savez certainement si vous êtes avec nous depuis 9h du matin, qui ne va pas bien dans ce troisième tour. Le premier set est quasiment perdu. On en est où, Eric Salio?
Oui, 5 jeux à 1 pour Laura Siegebaum face à Caroline Garcia qui vraiment n'arrive pas à installer son jeu. Elle est très perturbée par cette Allemande de 34 ans qui s'est brouillé les pistes. Alors on me dit qu'il y a beaucoup de vent aussi sur la Kia Arena, mais bon, ça c'est pas une excuse. Il va falloir qu'elle tire un trait sur ce premier set parce que là il est quasiment perdu. Il y a 5-1, 40-15. Je trouve qu'aussi elle a des petites poches sous les yeux. Je sais pas s'il a passé une sale nuit, mais en tout cas c'est pas la fille resplendissante qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de la quinzaine. Donc 5-1, 40-15 pour Laura Siegebaum. Balle de 7 à venir pour cette Allemande de 34 ans, je le rappelle, 158e mondiale. Pour l'instant, oui, c'est le coup d'assommoir. Mais bon, il n'y a qu'un set de fait, hein. Elle va réagir, je suis convaincu.
Ouais, bah on reste avec toi, hein, quand même, pour cette balle de 7, ouais. Mon cher Eric Salio. Bon, Siegebaum face à Caroline Garcia.
Laura Siegebaum qui a une très colorée, hein, sa tenue avec une petite jupette jaune. Caro qui agresse au deuxième service et c'est gagnant. Donc 40-30. Laura Siegebaum donc qui n'arrive pas à conclure sur cette première balle de 7. Mais elle a une deuxième à venir alors que sur le central, Novak Djokovic a toujours son break d'avance. 3 jeux à 2 et Murray a déjà pris 6-1. 6-1, je crois qu'il a absolument pas récupéré de son incroyable match face à Kokkinakis, achevé à 4h du match. J'étais, c'était un moment magique, mais là effectivement,
t'as mieux récupéré que lui,
professionnel. Oui, j'ai un peu mieux récupéré avec lui, je vous le cache pas. Alors que là, vraiment, il est un petit peu à l'heure. Et puis en plus, Bautista Agut, c'est pas le mec qu'il faut rencontrer après un marathon de 5 heures. Donc deuxième balle de 7 à venir pour Laura Siegemuth face à Caroline Garcia, l'une des favorites de ce tournoi. Voilà, c'est fait, service gagnant. 6 jeux à 1, c'est la tuile.
Exactement, et on suivra le deuxième set avec toi, mon cher Eric. Qu'est-ce que c'est?
C'est un téléphone.
C'est le téléphone rouge des GG. Une star peut nous appeler, on décroche.
Rouge ou rose?
C'est rouge, je pense. Hein. Allô, c'est qui?
Allô, bonjour, bah, c'est Antoine Deneria, champion olympique de descente.
Ah, oh, Antoine. Salut Antonio. Salut
Antoine. Antoine Deneria, merci d'être avec nous. Oui, champion olympique de descente en 2006. Antoine, j'imagine que tu as envie de réagir à notre débat sur la peur. À un moment donné de ta carrière, toi, ça a pu être un frein, non, si je ne me trompe pas?
Ouais, bah, disons, quand on est descendeur, il y a forcément toujours plus ou moins une boule au ventre. Il y a des pistes plus ou moins faciles, plus ou moins impressionnantes et on fait avec, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'à la fin de ma carrière, bah, elle est devenue un peu trop forte. Donc j'ai décidé d'arrêter un petit peu à cause de ça, ouais.
Arnaud, Antoine, tu disais voilà, il y a des pistes voilà très très difficiles, des pistes qui font peur. Il y a aussi une espèce de petite bataille. C'est Johan Claret qui avait révélé ça une année quand il avait dit avec d'autres skieurs par exemple qu'ils avaient trouvé que Bormio était plus dur que l'Ashdrive sur je sais plus quel hiver. Je crois que c'était l'hiver 2012. Derrière, eh bien Kitzbühel avait encore plus arrosé la piste, encore plus rendu l'Ashdrive dangereuse. Il y a cette espèce de petite bataille, notamment entre Bormio et Kitzbühel pour la descente la plus dangereuse. Est-ce que toi aussi t'avais vécu ça et est-ce que tu confirmes ce sentiment?
Ouais, bah moi j'ai toujours trouvé Bormio plus difficile que Kitzbühel, surtout au niveau physique, parce que c'est une piste où il y a pas de répit, on se repose pas une seconde, c'est quasiment tout à l'ombre et ça tape énormément. Alors que Kitzbühel, bah il y a le sommet, enfin le Steilhang et puis toute la partie du bas qui est hyper impressionnante, mais la partie du milieu, bah elle est, je dirais qu'elle est entre guillemets un peu plus cool. Je sais pas si on peut dire ça cool, mais bon, on peut un peu souffler entre le Steilhang et la partie finale et le Grand Dévers. Après une compétition entre les pistes, je pense pas, mais c'est vrai qu'il y a une période où on avait tendance à énormément arroser les pistes. C'était de la glace, c'était des patinoires en pente. Et bon, là, c'est vrai que c'était des fois très impressionnant, ouais.
Antoine Denerrière, champion olympique de descente, nous a appelé pour nous parler de cette descente de Kitzbühel qui aura lieu à 11h30. Vous suivrez ça évidemment dans les grandes gueules du sport et sur RMC. Denis Charvet.
Antoine, je peux te poser ces questions maintenant parce que t'as arrêté. Est-ce que tu as pensé à la mort avant une descente?
J'y ai pensé. Après, 3 semaines après les Jeux Olympiques à Turin, là, j'ai pris une énorme gamelle à Auray en Suède et ouais, j'ai pris un gros coup sur la tête. Et c'est vrai que quand j'ai repris mes esprits, que j'ai compris ce qui m'était arrivé, que j'ai revu la chute, ouais, ça aurait pu être hyper grave. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un moment, j'étais plus tellement en forme et j'ai énormément cogité et je me suis rendu compte que je prenais des risques qui étaient assez forts, ouais.
Quand on demande à un sportif de haut niveau ce que ça fait d'être au départ de cette descente de Kitzbühel, bon, on n'a pas l'impression de s'en rendre compte parce que vous avez l'habitude évidemment. Christophe, toi, tu as un jour été dans le portillon de départ et tu as vu cette descente.
J'ai commenté.
T'as pas descendu,
Non, je l'ai pas descendu. Bah non, tu peux pas la descendre. Déjà, il faut avoir des skis qui sont tellement affûtés que si tu vas.
C'est vrai qu'une partie de la piste est fermée aux skieurs toute l'année. Ce qui est relativement rare.
Mais je pense que Antoine va pouvoir nous le décrire mieux que moi parce que lui, il a pris le départ vraiment de cette descente de Kitzbühel. Mais quand t'es dans la cabane de départ, c'est une espèce de truc noir là qui brille parce que c'est de la glace vive et tu sais qu'au bout là-bas 150 mètres plus loin t'as un virage quasiment à angle droit à prendre. Antoine, raconte-nous dans quel état on est quand on est au départ de cette descente.
Quelle différence il y a entre Kitzbühel et les autres
et les autres, ouais, finalement.
Bah si, ouais, Kitzbühel, bah il y a déjà toute une ambiance particulière, c'est la Mecque du ski, c'est l'Autriche, il y a 50 000 personnes tout autour de la piste, surtout à l'arrivée. Et c'est vrai, quand on est dans le portillon, déjà, moi j'avais la sensation, quand on rentrait dans cette cabane de départ toute blanche, l'impression de rentrer dans une salle d'opération, c'est assez impressionnant, on fait pas le malin, quoi, il n'y a pas un bruit, personne parle, et quand on met les bâtons dans le portillon, c'est vrai que bah, tout de suite c'est très raide, c'est très gelé, c'est de la glace. Et puis 150-200 mètres plus loin, on voit, c'est déjà hyper raide. On pousse 2-3 fois et au bout de 200 mètres, on est déjà à plus de 100 km/h. Et puis après, il y a le saut de la Mausefallée, la souricière où on saute 60-80 mètres et on va très vite, très vite, quoi. Donc c'est vrai qu'on est tout de suite dans le bain, ça tape tout de suite, c'est hyper impressionnant et le départ, c'est le couteau entre les dents tout de suite. Donc c'est vrai que on est tout de suite dans le vif du sujet, ouais.
Et d'ailleurs, juste pour préciser, cette année, ils ont adouci le saut final, parce que le saut final a souvent fait des dégâts. Je vous parlais de Daniel Albrecht il y a quelques minutes. On peut parler d'Urs Kriegenbull aussi, qui avait subi une chute absolument catastrophique en 2021. Johan Claré aussi, qui était tombé. Bref, cette année, ils l'ont adouci pour éviter. D'ailleurs, on a remarqué que sur le saut final, les skieurs sautaient très très peu, justement. Il y a aussi cette conscience et cette notion de la part des organisateurs d'écouter aussi ce qui se dit du côté des skieurs qui avaient un peu hurlé après l'édition 2021.
Les GG du sport, l'émission de champion olympique avec Antoine Denerrière, avec aussi David Douillet. David, un petit mot rapide pour Antoine.
Moi, je veux saluer sur la reconversion d'Antoine qui fabrique des skis formidables. Voilà, je les ai essayés. Continue.
Exactement.
Pour les hommes. Voilà, merci.
Et Antoine, tu sais que je skie toujours avec tes lunettes. Tu fabriques encore des lunettes?
Oui, je fais toujours faire des masques, des cases, des accessoires et puis des skis. Non, je fais des skis pour les hommes, comme dit David, donc il n'y a pas de souci.
Pour les grosses cuisses.
Vous équiper.
Bon, Antoine, moi je skie encore avec tes slips. Franchement, c'est très bon.
Antoine, est-ce que toi, comme David, tu as une piste à ton nom dans une station française? Parce que David, il a quand même une piste à son nom, c'est quand même quelque chose.
Eh hein. Ouais.
Il skie bien, David.
Ouais, je sais, dans les Trois-Vallées, il y a une piste à son nom. Bah, moi, c'est chez moi, à Morillon, ouais, le stade de Salom, c'est le stade Antoine Denerrière.
Voilà, ça, c'est la classe.
Merci, Antoine Denerrière, d'avoir été avec nous en direct dans les grandes gueules du sport.
Merci, bonne journée.
Salut. Plaisir. Salut, Antoine. De te reparler dans les GG.